Et voilà, donc deuxième partie de l'émission En deux Noirs, émission consacrée donc à la littérature policière,
sur au Agora swing, Côte d'Azur,
au swing, au rock, au ouais. jazz, à toutes les musiques qu'on aime et qu'on essaye de vous faire partager. Voilà, et les coups de cœur aussi, les romans que l'on a particulièrement appréciés ces temps-ci. Donc Jacques, je ne sais absolument pas de quoi tu vas nous parler.
Eh bien, d'un roman de Maurizio De Giovanni, qui s'appelle, très beau titre, « Et l'obscurité fut », qui est paru au Fleuve Noir et qui est traduit par Jean-Luc De Fromont, de l'italien donc. Les auditeurs fidèles d'Onde Noire, et je sais qu'il y en a beaucoup, connaissent déjà Maurizio De Giovanni. On en a beaucoup parlé, de sa série des enquêtes du commissaire Ricciardi dans la Naples des années 30.
Donc une série qui est parue chez Rivage, voilà. D'ailleurs Rivage.
Mais ce soir, c'est sa seconde série, qui paraît chez Fleuve Noir.
C'est une maîtresse.
Oui. Elle se passe toujours à Naples, mais c'est une série qui est contemporaine. En italien, elle s'appelle « Les Bastardis de Pizzo Falcone », que le traducteur appelle, lui, « Les salauds » ou « Les bâtards de Pizzo Falcone ».
Oui, « bâtards », ça paraît.
Mais plutôt, il dit « Les salauds », plutôt. Pizzo Falcone, c'est pas toujours facile à dire, c'est un commissariat de quartier. Pas des plus beaux quartiers de Naples. Un commissariat dont la plupart des anciens membres ont été arrêtés pour corruption aggravée. Et ils ont été remplacés par des flics d'autres commissariats. Des flics dont personne ne voulait dans leurs anciennes affectations, pour diverses raisons. Et le lecteur va le découvrir au fil des pages. Parmi ces flics, il y a l'inspecteur Loja Corno, qu'on connaît depuis un moment, le Sicilien expatrié sur le continent, pour soupçons, certes infondés, mais des soupçons de collusion avec la mafia. Et donc c'est pour plutôt le protéger de la mafia qu'il était expatrié à Naples, donc en face de la Sicile. Loja Corno, on l'avait découvert en 2013 dans sa première enquête qui s'appelait « La méthode du crocodile », une enquête qu'il avait menée complètement en solo ou presque. Là, il a intégré le commissariat de Pizzo Falcone.
Tu vas y arriver d'ici la fin de la chronique, je pense
par le dire
que tu vas
finir en gros. Hein. Et dès le début du roman, ils sont, la brigade, sur deux enquêtes. L'une, c'est l'enlèvement d'un gamin au musée de la ville. Et le gamin, c'est le petit-fils d'une des grandes fortunes de Naples, mais ils enquêtent aussi sur un simple cambriolage chez un couple dont le mari a une réputation plus que douteuse, mais il a quand même un casier vierge. Je ne vais pas vous raconter les différents événements et rebondissements des deux enquêtes. Il se pourrait même que les deux finissent par se rejoindre, mais ce n'est pas sûr non plus. On peut lire directement cet épisode, c'est le troisième en fait, donc, sans avoir lu les précédents, car Maurizio De Giovanni distille très habilement les détails, des infos qui nous permettent de savoir ce dont on a besoin pour lire ce roman-là. Un peu à l'instar des grands maîtres tels que Ed McBain, qui faisait le 87e district, lui, c'est le Bastardi de Pizzo Falcone. Et donc, l'auteur nous fait pénétrer dans chaque roman, un peu plus dans l'intimité de chacun des membres de la brigade. Alors, dans le roman précédent, c'était la collectionneuse de boules à neige. C'était certains qui étaient plus en vue. Là, c'est d'autres membres de l'équipe. Et tous, on découvre qu'ils ont des fêlures. Pas forcément, d'ailleurs, pour les raisons qui les ont amenés dans ce commissariat. Et il y a même, d'ailleurs, et ces fêlures, en fait, elles expliquent aussi leur comportement, parfois un petit peu, pas tout à fait dans la norme de ce qu'on attend d'un policier. Il y a même la belle et très stricte magistrate qui a l'air solide comme un roc et finalement qui ne l'est pas tant que ça.
Aussi des fêlures.
Exactement. Il ne faudrait pas oublier le personnage principal de ce roman. De tous les romans de Maurizio De Giovanni, c'est Napoli, Naples, sa ville.
Donc c'est le commissariat de
Pizzo Falcone.
Eh bien, on y arrive.
Voilà. Naples, c'est sa ville. Il est né, il y habite, il y écrit. C'est une ville qu'il aime, même dans toutes ses dérives. Une ville qui donne leur force, leur vie, leur identité à chacun de ses personnages, même les pires salopards. Mais c'est aussi une ville qui tire sa force de tous ces gens aussi. Une ville où la lumière semble être différente de n'importe quel autre endroit du monde. Une ville qui nourrit aussi bien qu'elle tue. En fait, c'est Naples, tout simplement. Alors, je ne vous ai pas dit grand-chose de l'enquête, et c'est un peu exprès. Mais je dois dire quand même que toutes les deux sont très bien menées. C'est vraiment un roman d'enquête, même avec les casseroles que chacun des flics trimballe, ce sont des très bons flics, des flics très efficaces. Et l'enquête en elle-même, du point de vue littéraire, est très très bien menée. Mais c'est aussi un très bon roman noir qui nous raconte la vie des gens, ceux qui luttent simplement pour leur survie, ceux qui profitent de tout, ou la morgue de certains nantis persuadés d'être au-dessus de tout et donc hors d'atteindre d'une investigation policière. Vous l'avez compris, c'est un roman qu'on recommande très chaudement à Onde Noire.
Bah c'est Maurizio Di Giovanni,
voilà.
C'est
voilà, tous ces romans pour l'instant.
C'est chouchou dans les écrivains italiens, même s'il y a pléthore de romanciers italiens et de très bons, mais.
Et quant au titre, très beau, je vous l'ai dit, et l'obscurité fut. C'est un peu énigmatique, mais je préfère vous laisser le découvrir à la lecture, ce qu'il signifie, plutôt que de vous donner des indices qui gâcheraient un petit peu la lecture.
On est quand même dans le noir.
Donc on est quand même dans le noir, oui. Dans le noir, et le noir italien, avec quand même, voilà, il y a quelque chose qui... Ça, même la langue, elle swing.
Ce qui permet de faire un très bon enchaînement,
c'est qui n'était pas prévu. Je rappelle quand même, Maurizio de Giovanni et l'obscurité fut paru au fleuve noir. Alors la musique, en fait, elle a été choisie par Jean-Paul Gracias, qui était dans la première partie d'émission. Quand Jean-Paul Gracias, outre d'être un très bon traducteur, c'est un très grand fan de jazz. Et donc, il nous a demandé, le dernier disque qu'il écoutait en ce moment et qui lui plaît beaucoup, c'est un disque de Terry Adams. Terry Adams, c'est un pianiste de jazz, de rhythm and blues, qui est quand même un tout petit peu barré. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Hornin In, c'est pas facile. C'est du jazz jubilatoire. J'emploie les mots de Jean-Paul Gracias. Le disque s'appelle Talk Thelonious. Et en fait, ce sont que des reprises de Thelonious Monk. C'est enregistré live dans un tout petit club. Et je peux vous dire, ça swing. Terry Adams. We'll be right back.
Voilà, c'était donc Terry Adams dans un enregistrement live, comme on dit, de certains morceaux de, alors là je reprends mon souffle, Thelonious Monk. Alors c'est un petit clin d'œil à Jean-Paul Gracias, le traducteur de Jim Thompson que nous avions en première partie d'émission, qui aime beaucoup le jazz et qui aurait beaucoup mieux prononcé les mots anglais que moi. Mais bon, je pense que ce morceau lui fera plaisir. Jacques,
Eh ben là, je vais vous amener.
On part où ?
Je vais vous amener en Écosse. Vous allez me dire, ça y est, il y a un nouveau chic, il y a un nouveau Rankin. Eh ben non. Il y a probablement un nouveau Rankin, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. On va aller à Glasgow et pas à Édimbourg. Et en plus, on va aller un peu dans le passé, puisque l'action de ce roman se situe en 1946, juste après la guerre, il y a 70 ans donc. C'est un roman de Gordon Ferris qui s'appelle « Les justiciers de Glasgow » qui est publié au Seuil, en grand format, dans la collection Seuil policier et qui est traduit donc de l'anglais écossais par Hubert Thézenas. Alors en fait, c'est le deuxième tome d'une quadrilogie mettant en scène Douglas...
Quadrilogie.
Oui, quadrilogie.
Tétralogie, non, ça ne te va pas ?
Tétralogie, je ne sais pas. Moi, j'ai lu quadrilogie, donc je dis quadrilogie. C'était sur le site de l'éditeur, ma foi. Le premier, La cabane des pendus, a été édité il y a un moment chez un autre éditeur, pas au Seuil, mais il a été réédité en poche dans la collection Point Policier. Il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir lu le premier, donc cette cabane des pendus, pour aborder celui-ci. Mais ça serait quand même un peu mieux, parce qu'il y a quand même quelques détails que, voilà, même si l'auteur nous les rappelle, il y a quand même, on fait connaissance en fait avec les deux personnages principaux. Souvent, c'est mieux de faire connaissance avec le premier. Mais on peut lire quand même celui-là directement. Alors, les deux personnages principaux, c'est Douglas Brody et l'avocate Samantha Campbell. Alors, Douglas Brody, c'est un ancien flic. Il est devenu, à la guerre, il s'est engagé, il a fini officier, major, dans les Seaford Highlanders. Et après, il est revenu de la guerre. On peut le comprendre avec une... Il a eu une période de forte dépression. Surtout qu'en fait, il avait servi, comme il parlait bien l'allemand...
La guerre est une période de forte dépression, de toute façon.
Il avait servi de traducteur, donc il avait interrogé les gens dans les nazis dans les camps. Donc ça, voilà, ça, c'est sûr que ça aide pas à avoir le moral. Et depuis, après un certain temps, donc après sa dépression, il est devenu reporter à la Gazette de Glasgow. Le Glasgow Gazette. Facile. Samantha, elle... s'appelle Samantha Campbell, c'est une avocate. Une fille de bonne famille glasgowienne, je ne suis pas sûr qu'on dise comme ça. Et dans la première affaire, elle a aidé Brody. Brody. Elle est même devenue un peu plus proche de lui que lui nécessitaient les investigations, mais c'est une autre histoire. Autre caractéristique, ouais, c'est des Écossais en même temps, ils sont tous les deux amateurs de whisky. Du pur malt, quand ils peuvent se le permettre, ils en boivent quand même pas mal. Sinon, ben, un scotch ordinaire, ils citent les marques, mais je ne le citerai pas sur Agora, un scotch ordinaire fait quand même largement l'affaire. Alors, ils vont se retrouver tous les deux sur une nouvelle enquête, journalistique en fait, puisque, bien qu'ancien flic, Brody est journaliste, reporter donc. Alors, au début, il y a un petit groupe qui se nomme les Glasgow Vigilantes, en anglais, que l'auteur appelle les Marshals de Glasgow dans le roman, et les justiciers de Glasgow dans le titre. Alors ce sont aussi un petit groupe, ben, ils se font justice eux-mêmes. En châtiant les personnes...
La milice privée, quoi.
En châtiant les personnes qu'ils estiment coupables et que la justice n'a pas puni ou pas assez puni à leur goût. Et ils se donnent un petit côté vengeur divin en citant des extraits de la Bible pour justifier leurs actes dans des courriers qu'ils envoient à la presse. Mais quand on s'en prend à des élus de la ville, des élus en charge de la reconstruction de la cité, donc Glasgow a été pas mal détruite pendant la guerre, et puis elle était quand même assez dans un état lamentable, donc il y a des gens qui font des gros progrès, des gros projets qui, évidemment, impliquent beaucoup d'argent. Et bien évidemment, il va y avoir des soupçons de corruption qui vont très vite faire surface. Et quand ben, les édiles meurent, ça pose quand même problème dans la ville. Et donc, bien évidemment, Brody va enquêter sur ça. Alors on pourrait croire un peu qu'on a affaire à un polar historique, puisqu'il se passe en 1946. Mais en fait, dès les 50 premières pages, on oublie complètement que l'on est donc justement après la guerre. Bien sûr, le Glasgow de l'époque est sûrement bien plus sinistré que celui d'aujourd'hui. Mais c'est pas sûr d'ailleurs. Mais les problèmes, à part évidemment les tickets de rationnement, qui heureusement n'existent plus, les problèmes restent en gros les mêmes.
Les tickets de rationnement, c'est aussi tout simplement la paye qui tombe à la fin du mois qui ne permet pas de s'acheter. Voilà.
Voilà, effectivement. Mais là, même quand on avait l'argent, on ne pouvait pas
tout
en avoir
fait,
plus.
Tout que, à fait.
Voilà. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, des flics corrompus ou démotivés, et peut-être l'un entraîne l'autre parfois, des promoteurs véreux. Certes, alors dans je ne vous ai pas le dire. Certes, dans ces romans, en fait, la presse écrite a beaucoup plus d'importance que maintenant, puisqu'il n'y a pas de chaîne d'infos continue qui relate les faits. Mais à l'époque, avec 2 ou 3 éditions journalières des quotidiens, on ressent presque les mêmes effets. Et Gordon Ferris nous décrit fort bien le fonctionnement d'un journal avec les compromissions possibles, refusées ou acceptées pour plaire au patron. Les patrons du journal ou les patrons de la ville, et aux lecteurs. Et aussi pour avoir le scoop, et aussi pour rester aussi honnête que possible. Autre point fort de ces romans, c'est la rage de Brody. Il est revenu de la guerre, et il constate, c'est peut-être l'auteur aussi, il voit le peu de cas qu'ont fait des soldats, des rescapés de cette boucherie qui, une fois rentrés au pays, sont abandonnés à eux-mêmes. Et puis, un peu comme dans le Maurizio De Giovanni dont je parlais tout à l'heure, il y a l'Écosse et il y a Glasgow.
Beaucoup moins de soleil quand même.
Il y a beaucoup moins de soleil, sauf que là, en fait, ça se passe en été 46 et il paraît qu'il y a une canicule. Donc en fait, ils ont tous très chaud. Alors non, très chaud en Écosse, c'est peut-être pas aussi comme très chaud à Naples. Hein. Mais alors, parce qu'ils restent pas que dans la ville, ils s'éloignent à un moment, donc ils vont autour du Loch Lomond et du Ben Lomond. Et donc en fait, il y a des paysages qui sont tout à fait magnifiques et qui sont décrits merveilleusement et qui font une très belle avec la ville qui, elle, est en décrépitude complète. Donc, en fait, je disais qu'une quadrilogie ou une tétralogie, ils sont déjà écrits en anglais, donc on peut espérer que les autres soient traduits
voilà,
dans
on espère qu'on va avoir les
proches.
Au seuil policier, donc, les justiciers de Glasgow, Gordon Ferris, traduit par
Hubert Tézonas.
Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Donc, eh bien, on va dire traditionnellement, chacun dans son coin avec un bon bouquin. La prochaine, c'est la dernière de la saison. Voilà. Au revoir, Jacques.
Au revoir, Corinne. Au revoir à tous.
À bientôt.
Et restez fidèles à Agora Côte d'Azur.